Salut à tous les rétros et bienvenue dans Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM et de Megaforce Radio qui aborde la culture rétro geek. C'est Carrément Rétro, présenté par votre serviteur, Johan Sega. Jingle. Aujourd'hui, la Game Boy Advance. C'est le 21 mars 2001 qu'est sortie pour la première fois au Japon la reine des consoles portables, à savoir le premier modèle de Game Boy Advance venu remplacer une bonne fois pour toutes la lignée Game Boy, Boy Pocket et Game Boy Color. Une si belle dynastie qui aura régné d'une main de fer sur le marché des consoles portables durant plus d'une douzaine d'années, écrasant au passage toutes ses concurrentes qui ont malheureusement eu l'audace et la douloureuse expérience de croiser un jour le chemin de la portable de Nintendo. Ainsi, après la PC Engine GT, la LT de NEC, le Game Gear et la Nomad de Sega, la Lynx d'Atari, la Neo Geo Pocket de SNK ou encore la WonderSwan de Bandai, c'est au tour de Nintendo de venir lui-même s'opposer à sa propre création en proposant dès 2001 le Game Boy Advance. Et pourtant, le GBA aurait très bien pu sortir beaucoup plus tôt, car c'est dès le début de l'année 96 que chez Nintendo, on commence à réfléchir à la succession du Game Boy. Il faut bien l'avouer qu'après de très belles premières années, la portable sortie le 21 avril 89 au pays du soleil levant est clairement 7 ans après en perte de vitesse. C'est vrai qu'au niveau de ses spécifications techniques, le Game Boy était déjà en retard au moment de sa sortie dans les bacs. La console aurait très bien pu sortir dès 87, elle était terminée à cette époque. La faute en reviendra à Hiroshi Yamauchi, trop prudent, qui avait peur que la petite console monochrome ne fasse de la concurrence à la Famicom, qui se vendait alors à des volumes stratosphériques. Hiroshi Yamauchi, je le rappelle, ancien PDG de Nintendo à l'époque. De fait, il faut bien constater qu'à l'aube de l'année 96, où le monde ne jure que par la 3D, où Nintendo s'apprête à mettre sur le marché sa Nintendo 64, le Game Boy commence à faire pâle figure avec son architecture 8 bits et sa dalle monochrome, proposant seulement 4 nuances de gris. C'est alors que le projet Atlantis est mis en chantier du côté de l'équipe hardware, et il revient à Satoru Okada et son équipe de réfléchir vers quoi peut tendre le futur portable de Nintendo. Pour son modèle suivant, il souhaite avant tout une console dans l'air du temps. Il commence alors à travailler sur un prototype doté d'un processeur 32 bits et surtout d'un écran couleur capable d'impressionner les joueurs tout en gardant ce qui a fait le succès du Game Boy, à savoir que le projet Atlantis devra également avoir une autonomie convenable tout en étant assez compact pour pouvoir être transporté. Le Game Boy Advance apparaîtra finalement lors du Space World au mois d'août 2000 où elle est présentée en grande pompe au grand public. Le premier fait marquant est bien entendu son design. Ainsi, à l'instar de la WonderSwan de Bandai, le GBA se tient désormais à l'horizontale, le D-pad et les boutons Start et Select étant du côté gauche de la console, tandis que les boutons d'action A et B se retrouvent alors sur le côté droit, lui donnant un aspect plus compact et plus moderne. Deux boutons de tranche font également leur apparition, les fameux Trigger L et R, hérités de la manette de la Super Nintendo, viendront donc s'ajouter au traditionnel A et B, portant le nombre de boutons d'action à 4 possibles. Autre nouveauté, son écran LCD en couleur, à choisir sur une palette proposée de 32 768 couleurs. Son format 2,9 pouces contre 2,6 pour le Game Boy n'est plus carré, mais au format large, avec une résolution de 240 par 160 pixels, qui permet une très bonne lisibilité et une plus grande finesse d'affichage des pixels. Le processeur, bien entendu, quant à lui, sera 32 bits, cadencé à 16,8 MHz. Et si à l'époque il ne s'agit pas d'un foudre de guerre, il a l'avantage de proposer des spécifications supérieures de celles d'une Super Nintendo, tout en étant peu énergivore et peu coûteux, car à l'époque déjà très commercialisé. Au final, le bébé est un peu plus large et épais que le Game Boy, mais elle fut la star du Space World 2000, malgré la présentation de la Nintendo 64 et de sa démo de Zelda époustouflante. Il est vrai que le GBA avait des arguments à proposer lors du salon. Des jeux comme F-Zero ou Mario Kart Advance allaient faire grande sensation lors du salon et firent entrer directement le GBA comme la console des nostalgiques de par l'ombre de la Super Nintendo bien présente sur les créations dévoilées lors de l'événement. Le Game Boy sort ainsi au Japon le 21 mars 2001. Nintendo annonce alors que plus d'un million de consoles sont disponibles. Toutes précommandées, un record pour l'époque. La console sortira pour 9800 yens, environ 100 euros de maintenant. Un succès incommensurable qui fera des envieux jusqu'au 11 et 21 juin de la même année, date de la sortie de la machine en Occident, États-Unis et Europe. Fixée à un prix de 590 francs, la console connut le même succès qu'au Japon. Déjà coutumier du fait, Nintendo proposa de base 4 modèles de son Game Boy Advance en Day One. Violet, noir, blanc et transparent. bientôt rejoint par une édition rose transparente, voire même orange au pays du soleil levant. La console proposera aussi en accessoire un chargeur secteur pour pouvoir jouer sans user ses piles, et surtout, le fameux câble Link. Il est cependant revisité avec un bloc central pour pouvoir connecter deux autres câbles et ainsi pour faire des parties jusqu'à 4 consoles en même temps. De très gros titres sortiront dessus. Metroid Fusion, Advanced Wear, F-Zero comme on l'a déjà dit, une série de Mario spécifiques et bien entendu une rétrocompatibilité avec la GameCube de Nintendo au même moment. Un câble de liaison permettra de connecter les deux machines afin de pouvoir jouer au Game Boy Advance sur votre télé tout en se servant de la Game Boy Advance comme d'une manette. La Game Boy Advance se vendra à plus de 30 millions d'exemplaires au Japon. Une Game Boy Advance, à notre époque, complet et en boîte, comptait dans les 150 euros. La pause musicale, c'est avec Time Travel et leur titre Crystalis. c'était Time Travel dans votre émission Carrément Rétro.
Ornithorynque sur internet, c'est sur www.ornithorynque.net.
Moi j'écoute Carrément Rétro Ornithorynque et j'aime ça.
La rubrique, le jeu du jour. Le rétro-test du jour, c'est Advance War sur Game Boy Advance. Le petit pitch du jeu, c'est la guerre. Les bleus envahissent le territoire des verts, eux-mêmes en conflit avec les oranges, pendant que les jaunes se tournent les pouces en observant le spectacle. Vous n'avez rien compris ? C'est normal. De toute façon, la seule chose à retenir est que le monde est aujourd'hui partagé entre quatre clans qui ne peuvent s'empêcher de s'en mettre plein la tête. Advance War vous propose de prendre part à ce conflit en vous confiant les rênes de l'armée orange. Les batailles ont toutes lieu sur des cartes de taille variable et sur lesquelles vous déplacez vos troupes. Chaque unité peut se déplacer d'un nombre de cases spécifiques qui dépend à la fois de sa fonction, infanterie, tank, avion, de la météo et du relief. Les déplacements en montagne sont naturellement plus lents que ceux en plaine. De même, vos soldats progressent péniblement sous la neige, chacun disposant aussi de ses propres règles de combat. Alors que les fantassins doivent obligatoirement se rendre au contact de leurs ennemis, les lance-missiles peuvent se permettre de se tenir à plusieurs cases de distance pour dégommer leurs cibles. Les rapports de force entre les 18 unités sont assez complexes, mais restent cependant très simples à comprendre, car elles font appel à beaucoup de logique. Par exemple, les bombardiers sont plus puissants que les tanks, les missiles solaires sont plus puissants que les bombardiers, etc. L'issue des combats, au final, chers auditeurs, dépend à la fois des forces en présence, du joueur qui a l'initiative, celui qui lance l'assaut, mais également du relief. Les soldats postés dans les montagnes disposeront d'une meilleure défense et auront des tirs plus précis. Vous l'avez bien compris, Advance War sur GBA, c'est un jeu de stratégie type jeu de plateau, type risque. Ce jeu de stratégie est très abordable, même pour les néophytes du genre. Mais revenons au jeu en lui-même. Par exemple, sur la visibilité des soldats, elle a aussi son importance. Du moins, lorsque vous jouez avec le mode brouillard. Et oui, il y a plusieurs modes. Et vous ne pourrez détecter les ennemis que si ces derniers se trouvent assez près de vous. Et ce n'est pas tout. Nintendo est allé encore plus loin. Même si vos soldats peuvent voir une forêt, il faut quand même envoyer quelqu'un vérifier qu'aucun ennemi ne s'y cache. De plus, un soldat qui grimpe au sommet d'une montagne pourra profiter d'une vision de la carte beaucoup plus étendue. Bateau, sous-marin, tank, bombardier, avion de chasse, hélicoptère, lance-missile, fantassin, etc. La liste des unités est donc très longue. Toutes n'ont pas d'aptitude directe au combat, et certaines vous serviront uniquement à transporter plus rapidement le reste des troupes ou à les ravitailler en munitions et en essence. En capturant les villes sur la carte, vous gagnerez des sous qui viendront renflouer vos caisses et qui permettront la construction de nouvelles unités dans les missions avancées. Enfin, sachez que chaque clan possède un pouvoir spécial qui pourra déclencher une fois sa jauge remplie. Les bleus sont par exemple capables de déclencher une tempête de neige, alors que les oranges ont les moyens de réparer plus rapidement leurs unités. Finalement, Advance War déborde donc de petits détails en tout genre, mais pas de panique. Un long tutoriel d'une quinzaine de missions vous permet d'assimiler, en douceur, les nombreuses possibilités du titre. Irréprochable sur l'intérêt de jeu, Advance War l'est pratiquement aussi sur sa réalisation. Avec ses graphismes magnifiques, dans un style très enfantin, l'univers adopte un look manga très agréable. Les personnages manquent parfois un peu de charisme, surtout Olaf, le chef des Bleus, qui ressemble plus à un vieux loup de mer qu'à un grand commandant militaire. La bande-son, quant à elle, est très plaisante, même si elle s'avère être très répétitive lorsque les batailles durent un peu trop longtemps. J'ai gardé le meilleur pour la fin, chers amis. L'incroyable durée de vie du titre, avec plus de 130 cartes et un éditeur pour créer ses propres champs de bataille, Advance War pose une longévité à toute épreuve. Et ce n'est pas tout. Comme beaucoup de jeux GBA, Advance War peut se savourer à plusieurs. Bref, tout seul ou à quatre, avec une ou plusieurs cartouches, Advance War est un vrai régal qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Probablement l'un des tout meilleurs titres de la GBA à ce jour. Question graphisme, je lui donne la note de 15 sur 20. Des graphismes colorés dans un style manga qui facilite la lisibilité de l'action. Question jouabilité, 18. Les règles du jeu sont bien expliquées grâce à l'excellent tutoriel. On saisit très vite la fonction de chaque unité, ce qui permet de construire rapidement des stratégies d'attaque. Durée de vie, on en parlait tout de suite, 19 sur 20. Bande-son, c'est un petit peu le point faible du soft, les musiques sont légèrement usantes à force de les entendre. Les bruitages sont quant à eux très bons. Au final, en mélangeant une interface simple et intuitive à un gameplay riche et complet, Nintendo réalise un coup de maître avec Advance War. Tous les amoureux de stratégie se jetteront sur ce jeu, aux qualités indéniables. Les autres aussi d'ailleurs. Advance War, à notre époque, complet, comptez dans les 20 euros. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur johan@ornithorynque.net. Je répète, johan@ornithorynque.net. « Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine.